C'est un bouquin qui s'appelle Géographie, épistémologie et histoire des savoirs sur l'espace. Géographie au pluriel parce qu'on avait comme projet non pas de conduire une réflexion sur la géographie, parce que la géographie, dans notre esprit, ça renvoyait à la fois à la sphère académique et à la sphère scolaire essentiellement, mais on a tenu à mettre le terme au pluriel, à la fois par le biais de nos travaux respectifs et par le biais du groupe de recherche dans lequel s'inscrivent ces travaux. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. On a les uns et les autres fait l'expérience d'une multiplicité des géographies, tout bêtement des géographies nationales, des géographies qui seraient éventuellement coexistantes à une période donnée, comme on le dit souvent pour la période contemporaine, hein. On a tendance à parler de l'histoire de la géographie comme d'une succession de paradigmes et de la période contemporaine comme celle d'une coexistence de paradigmes. Donc on a tenu au pluriel notamment pour ces raisons-là. Mais aussi, je prends un exemple, un des collègues qui a participé au projet, Guilhem Labinal, a travaillé sur la géographie des revues. Et pas simplement la géographie, enfin même pas tellement la géographie des revues scientifiques, mais la géographie de revues comme Géo, qui est un tout autre monde géographique que celui que nous fréquentons en tant qu'universitaires. Épistémologie et histoire, bon, si ça avait été un choix qui ne dépendait que de moi, j'aurais supprimé le mot histoire. J'ai rien contre les historiens, mais le terme épistémologie suffisait. Épistémologie, bon, quand on l'emploie au sens anglophone du terme, hein, quand les anglophones parlent d'épistémologie, c'est quelque chose de très englobant finalement. C'est l'ensemble des pratiques réflexives autour d'un champ de la connaissance, et ça inclut bien évidemment l'histoire de ce champ de la connaissance. Disons que pour des raisons éditoriales, marketing, c'était intéressant d'ajouter le mot histoire pour dire qu'on allait bien aussi faire de l'histoire de la géographie. Et puis l'idée des savoirs sur l'espace. Alors c'est une réflexion que nous avons développée depuis une dizaine d'années maintenant, je dirais. Il me semble d'abord, historiquement, on a parlé de savoirs géographiques pour dire que il y avait des savoirs qui avaient rapport à la sphère de la géographie et qui n'étaient pas produits par des géographes. Et puis savoir sur l'espace, c'est une expression qui vient peut-être d'ailleurs de la collaboration qu'on a pu avoir avec des collègues historiens dans un projet de recherche autour des questions coloniales, puisque ces collègues historiens nous ont montré, ont mis en évidence le fait que quand on s'intéresse au domaine de la colonisation et ce qui se disait tout à l'heure sur les compétences des malfaiteurs à Marseille me faisait penser aussi. Quand on travaille sur la colonisation, eh bien, on va mettre en œuvre toute une série de compétences spatiales qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la géographie institutionnalisée. Et ce qui nous intéresse notamment, c'est de voir quelle relation il peut y avoir entre ces compétences spatiales, qui sont celles des militaires, des géomètres, des cartographes, des explorateurs, et la géographie comme savoir institutionnalisé. Donc l'idée de savoir sur l'espace, hein, ça a été une volonté d'ouvrir un petit peu le spectre et de dire que ces savoirs sur l'espace existent dans beaucoup d'autres domaines que celui de la géographie comme science. Ça renvoie à un vieux mot qui est peut-être... Je ne sais pas si on l'emploie beaucoup aujourd'hui, c'est le terme de géographicité. Géographicité pour dire toute notre relation au géographique, notre manière de penser, de pratiquer, d'organiser, d'optimiser nos actions dans l'espace. Bon, voilà pour le titre. Je voudrais dire quelques mots de l'importance des pratiques réflexives. Parce que finalement, faire de l'épistémologie, de la géographie pour ce qui me concerne, mais je crois qu'on peut le dire dans tous les champs, ça n'est rien d'autre qu'avoir une pratique réflexive sur un corpus de savoir, alors qu'on peut appeler une discipline, un champ. Alors, ces pratiques réflexives, eh bien, elles nous occupent, géographes, elles nous occupent plus aujourd'hui qu'hier, grâce notamment à une évolution institutionnelle qui a été l'apparition de l'épreuve sur dossier du CAPES. Parce que ça a généré des cours, ça a généré de la production de savoir, et forcément, ça a généré de la réflexion pour nous. Et personnellement, alors je ne dis pas ça simplement parce que je fais de l'épistémologie, de la géographie, mais personnellement, je suis très très content de cette évolution. J'en suis très content parce que il me semble que les pratiques réflexives manquent, ou je veux dire manquaient si je suis optimiste, ou manquent cruellement à nos pratiques d'enseignement, que ce soit à l'université ou dans l'enseignement secondaire. J'étais la semaine passée dans un stage de formation continue. J'animais un stage de formation continue avec des profs de collège et de lycée. Et on se disait ensemble, ou je leur disais, et ils semblaient plutôt d'accord avec moi, je leur disais plutôt que de mettre sous le tapis la vieille limite nord-sud quand vous parlez de la mondialisation, parce que ça serait dépassé, parce que ça serait obsolète, parce que ça ne dirait plus le monde, eh bien, au contraire, parler aux élèves de cette limite nord-sud, mais de manière réflexive, en leur disant que c'est quelque chose qui apparaît dans les années 1980, que c'est consécutif à un rapport de l'ONU, que ça a un sens de dire nord et sud plutôt que pays développés ou en développement, que c'est une forme d'assignation à résidence géographique qui est peut-être encore pire que cette espèce de voie du développement qu'on évoquait auparavant. Bref, dénaturaliser ce qu'on passe notre temps à naturaliser quand on enseigne la géographie. Et je pense quand on enseigne l'histoire aussi. C'est-à-dire montrer que les savoirs sont construits, montrer qu'ils ont une histoire, montrer qu'ils peuvent être dépassés à un moment donné, qu'ils sont toujours construits en situation. Donc, pour ça, les pratiques réflexives me semblent importantes et je crois que très tôt dans les cursus, dès le collège, hein, on peut entrer en géographie, je dirais, ou entrer en histoire par cet intermédiaire-là. Ça procède peut-être aussi d'une frustration initiale que j'ai pu avoir comme étudiant en géographie. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai analysé beaucoup plus tard. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait des études de géographie en réalité, mais j'ai fait des études de géographie, je le sais. Et c'est seulement peut-être 10 ans après que je me suis rendu compte qu'à aucun moment je ne m'étais interrogé sur qu'est-ce que c'est que la géographie, à quoi ça sert, quelle est la place de ce savoir dans la sphère des savoirs scientifiques. Enfin bref, ces questions qui me paraissent aujourd'hui fondamentales, je les ai découvertes finalement très tardivement, comme si un cursus universitaire, alors je vous parle d'un autre temps, je pense que ça a changé, mais comme si un cursus universitaire pouvait faire abstraction de cette interrogation fondamentale sur pourquoi est-ce qu'on étudie quelque chose et qu'est-ce que ça signifie de l'étudier comme ça ou comme ça. De l'importance des pratiques réflexives. Alors, ce bouquin, j'y reviens. D'abord, c'est une demande d'éditeur, hein. C'est une commande en fait. C'est une commande, je passe les détails, mais ça passe par le CNED. Je travaille toujours un peu pour le CNED, pour les cours d'épistémologie de la géographie, et il s'agissait d'actualiser un cours, et puis on s'est dit que ça serait peut-être bien d'en faire un bouquin, et puis je me suis mis au travail, puis je me suis rendu compte que je n'y arriverais jamais tout seul, donc j'ai recruté des petites mains qui étaient beaucoup plus que des petites mains, puisque sans eux je n'aurais pas fait ce travail et ils n'auraient pas eu cette forme-là. Enfin, bref, on a travaillé en équipe, et je dirais qu'on a, alors c'est peut-être un peu immodeste de dire ça comme ça, mais je dirais qu'on a travaillé en équipe de spécialistes. D'une part, l'équipe en question, donc c'est une unité de recherche qui s'appelle Géographicité, enfin, et l'équipe de recherche au sein de Géographicité s'appelle EGO. On peut faire tous les jeux de mots qu'on veut, épistémologie et histoire de la géographie. Et donc dans cette équipe de recherche, on a fait beaucoup de travaux, comme dans beaucoup d'équipes, hein, de travaux très précis, très pointus, et puis finalement, on n'avait jamais produit d'ouvrage un peu synthétique, hein, sur le sujet. Et puis, d'autre part, on se rendait compte en même temps que beaucoup d'histoires et d'épistémologie de la géographie étaient faites par de vieux géographes qui, d'une certaine manière, se retournaient, quoi, et retraçaient en quelque sorte, hein, inscrivaient leur géographie dans du temps long. On était un petit peu sur autre chose, voilà, pour le dire simplement, et on s'est dit que c'était l'occasion de synthétiser des connaissances. Donc, ça c'était une idée que j'avais dès le départ. La forme de cet ouvrage est peut-être un peu particulière. Dans un premier temps, j'ai surtout pensé à mes étudiants. En me disant, si je leur propose 48 chapitres, je sais plus, enfin peut-être 48 ou 50, je ne sais plus exactement, mais si je leur propose 50 chapitres, eh bien, ils pourront toujours grappiller ces petits chapitres de 3 ou 4 pages en fonction de leur centre d'intérêt, de leurs difficultés. C'était un petit peu ça au départ. Et puis le fait ensuite, et ça a été très salutaire pour moi de travailler en équipe, fait que on a un peu réfléchi, un peu plus réfléchi la chose, et on s'est posé la question de trouver une forme. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas réussi dans cette entreprise, mais si on refusait de faire une histoire linéaire de la géographie, et si on voulait vraiment avoir une approche épistémologique au sens plus philosophique du terme, un peu global, sur les finalités, sur les ancrages politiques, etc., de la géographie, le livre, et alors pour un géographe en tout cas, c'est souvent problématique, le livre, avec des pages que l'on tourne, la linéarité du discours pose quelques problèmes. Alors, on s'attaque à une montagne quand on s'attaque à cela, hein, parce qu'aujourd'hui, malgré la pensée systémique, malgré des représentations systémiques qu'on va pouvoir trouver dans des ouvrages, on continue à tourner des pages. Mais bon, on a essayé de trouver une forme de compromis avec des chapitres courts qui se répondaient les uns les autres et qui étaient distribués au sein de 4 parties dans l'ouvrage. Une partie histoire, parce qu'on n'a pas voulu renoncer à faire de l'histoire de la géographie, mais une histoire qui serait plutôt des éclairages sur un certain nombre de points. Une partie champ, parce qu'il nous semble que c'est une question essentielle quand on s'intéresse à un savoir dont on n'a pas su précisément quel était l'objet pendant longtemps. Jusqu'à la fin des années 70, peut-être même encore un peu plus tard, hein, faire des études de géographie, c'était accepter une forme de schizophrénie. C'était accepter d'un côté d'aller compter des grains de sable dans des cours d'eau pour réfléchir à des questions d'écoulement fluvial, et puis de l'autre s'intéresser aux classes socio-spatiales. Sans pouvoir faire de connexion entre les deux. Et ça, c'était quand même quelque chose, enfin, à mon avis, c'est quelque chose de massif dans l'histoire de cette discipline-là. Mais là aussi, il faut le dénaturaliser parce que c'est quelque chose qui n'a pas toujours fonctionné ainsi. La géographie a eu beaucoup d'autres tentations que celle d'être une science de synthèse, comme on pouvait le dire à l'époque, au carrefour des sciences humaines, des sciences de la vie et de la terre, une tentation du côté de la sociologie, de l'économie politique, et puis ce fameux lien histoire-géographie aussi dont on pourrait parler. Enfin bref, donc les champs, c'était important. On a travaillé ensuite sur un certain nombre de pratiques, parce qu'il y a une très très grande hétérogénéité des pratiques en géographie avec des pratiques qui sont très très techniques. Et puis la dernière partie, on a essayé de prendre un certain nombre d'objets et de les éclairer à notre manière. Alors ce que l'on a essayé de faire à travers cet ouvrage, on a essayé de discuter, de remettre en cause un certain nombre d'éléments qui relèvent de ce qu'on appelle la Vulgate. Et j'ai l'impression que la Vulgate, alors bon, des Vulgates, il en existe dans tous les domaines de la connaissance, mais j'ai l'impression que la Vulgate en épistémologie de la géographie, elle est en partie due à ce dont je me félicitais précédemment, qui est l'épreuve sur dossier du CAPES. C'est-à-dire que je crois que une épreuve de concours qui est répétée d'année en année, c'est un petit peu comme les questions sur la France aux épreuves de concours. Une épreuve qui est répétée d'année en année secrète, parce qu'on est paresseux, hein, mais secrète une forme de vulgate. Donc on a essayé de foncer dans le tas, hein, et puis de discuter au moins un certain nombre de points. Un des points qu'on a essayé de discuter, je vais en citer trois, on pourra y revenir si vous voulez. Un des points qu'on a essayé de discuter, c'est la vision de Vidal de la Blache. Bon, Vidal de la Blache, on n'y échappe pas, hein, c'est le grand ancêtre, le père de la géographie française. C'est le seul, si je suis méchant, c'est le seul géographe qui est un petit peu connu à l'extérieur de la communauté. La vision de Vidal de la Blache elle est très partielle en réalité, hein. Vidal de la Blache, c'est le représentant d'une géographie descriptive. Donc synthétique, hein, des données humaines et physiques. Alors c'est pas faux, parce que c'est ce qui est compliqué d'ailleurs avec la Vulgate, c'est que rien n'est faux dans la Vulgate. Rien n'est faux, mais c'est un peu caricaturé, ou c'est partiel, ou c'est excessif. En réalité, on a un certain nombre de collègues dans notre équipe, et notamment Marie-Claire Robic, qui a passé des années à travailler sur les textes de Vidal de la Blache, et qui montre que c'est quelqu'un, par exemple, qui avait une vision théorique de la géographie, hein, qui a plaidé pour le développement d'une géographie théorique, qui a plaidé pour qu'on arrive à établir des lois en géographie, il l'écrit lui-même, extrêmement tôt. Autre petit élément qu'on peut citer à propos de Vidal de la Blache, son livre sur la France de l'Est, que Lacoste avait dans un premier temps passé sous silence et qu'il a redécouvert tardivement et dont il a fait la promotion dans la revue Hérodote, en le republiant d'ailleurs. Ce bouquin sur la France de l'Est, c'est un livre de géopolitique. Et Vidal de la Blache envisagé sous l'angle de la géopolitique, ce n'était pas quelque chose d'évident. Alors dans la Vulgate, on a aussi cette espèce de construction téléologique de l'histoire de la géographie, qui consiste à dire avant c'était pas bien, on était dans l'erreur, et puis maintenant on serait dans la vérité, avec une coupure qui se fait vers 1970. Alors bien sûr, il se passe beaucoup de choses au début des années 70. Hein, si on voulait faire un tableau un peu chronologique de tout ce qui se passe dans cette période, on verrait que c'est l'apparition de l'espace géographique, c'est l'apparition d'espace-temps, c'est l'apparition d'Hérodote. Ce sont quelques bouquins que j'appelle des livres manifestes, comme La région espace vécu de Frémont, comme La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ce sont aussi quelques textes importants de Roger Brunet. Bref, bien sûr qu'il se passe des choses dans les années 70, mais en gros, et c'est de notre faute probablement, hein, quand on l'enseigne, quand on va vite, et eh bien on divise la géographie en deux, avec une géographie pré-années 70, qui serait la géographie de l'erreur, et puis une géographie post, qui serait celle d'une forme de vérité. Et puis peut-être l'élément de vulgate qui m'embête le plus, parce que c'était une question sur laquelle j'avais travaillé dans ma thèse. C'est là que je me suis rendu compte que personne ne lisait jamais les thèses. puisque j'avais déjà dit dans la thèse que ça tenait pas, c'est la géographie en France naît en 1870. Alors ça, c'est quelque chose de très très fort. La géographie en France naît en 1870. Avant, ben, on ne sait pas trop, mais en tout cas, tout émerge en 1870 avec une géographie scolaire, avec une géographie universitaire, avec Vidal de Lablache qui va donc prendre la tête de cette géographie universitaire, et tout ça dans un contexte très spécifique, qui est le contexte du conflit entre la France et l'Allemagne, d'où une articulation qui a été très très vite faite, trop vite faite, et qu'on peut discuter, c'est le lien étroit entre la géographie, en particulier la géographie scolaire, et une mission patriotique, nationaliste, de la discipline. En réalité, quand on travaille un petit peu sur ces questions-là, on se rend compte que dans cette période des années 1870, autour du Second Empire, dans un contexte de mutation économique, eh bien, il y a toute une géographie proche de l'économie politique qui se développe, qu'elle influence très fortement les programmes scolaires, que les programmes scolaires sont pensés par rapport à cette utilité-là, hein, avec des textes programmatiques assez forts qui nous disent la géographie. Ça doit servir à connaître le monde, parce que cette connaissance du monde, c'est ce qui va permettre de l'exploiter et de le mettre en valeur. Enfin, il y a toute une filiation qu'on peut retrouver avec les propos des Saint-Simoniens, mais qui est encore très pertinente sur le Second Empire, bref, qui montre que il y a une culture géographique qui préexiste très largement à la guerre contre la Prusse. Et une culture géographique qui est sur un tout autre registre que le registre du national. Et si on s'en tient au scolaire, d'ailleurs, je signale au passage que les premiers programmes scolaires d'enseignement de la géographie pour le secondaire datent du tout début du 19e siècle. Alors, au tout début du 19e siècle, ils ne sont pas encore très rédigés, hein, mais on a quand même quelques lignes. La fonction de professeur d'histoire-géographie, et donc en même temps le couple histoire-géographie apparaît dans les années 30, 1830. Donc voilà, ce sont quelques exemples, hein, mais ils me paraissent importants. Un autre aspect de notre projet, c'était de réfléchir à, et ça a été souligné tout à l'heure, de réfléchir à des circulations, à des connexions, et à des formes de diffusion et réception des savoirs géographiques. Je prendrai deux exemples, hein, pour aller vite. La question des connexions et la question des connexions internationales. On a tendance parfois à penser que les milieux scientifiques, l'internationalisation des milieux scientifiques, et du milieu scientifique de la géographie est quelque chose qui est relativement récent et qui est très lié, bah, à la quantité de moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, hein. On passe notre temps, les uns comme les autres, à échanger des mails avec des collègues qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. On publie ou on essaye de publier dans des revues étrangères, on publie dans d'autres langues, on circule pour des colloques internationaux. Bon, bref, il y a une dimension internationale des savoirs. Et en fait, lorsqu'on travaille de manière un peu précise, et c'est en sens là qu'un épistémologue peut servir à quelque chose, c'est qu'il va se confronter à des travaux de géographes qui, et pas seulement à des travaux de géographes du siècle passé, mais à la vie quotidienne de ces géographes à travers l'analyse de leurs correspondances ou d'autres choses. Hein. Un de mes collègues a fait une thèse sur Albert de Mangeon. Il a analysé toute la correspondance d'Albert de Mangeon. Un autre collègue écossais maîtrisant parfaitement le français a fait récemment un travail sur Emmanuel de Martonne et la Roumanie. C'est pareil, c'est une connaissance fine des individus. Et quand on a cette connaissance fine des individus, on se rend compte que la dimension internationale des échanges dans le domaine de la géographie date du dernier tiers du XIXe siècle, au moins. Je dis au moins parce que finalement, c'est peut-être plus ancien, mais on ne le sait pas encore, faute de travaux. Les premiers congrès internationaux de géographie, le premier congrès, c'est 1875. L'Union géographique internationale apparaît au début du XXe siècle. Et des hommes comme Albert de Mangeon ou comme Emmanuel de Martonne, pour les citer de nouveau, circulent énormément. Et pas seulement en Europe, dans le monde entier. Ils vont échanger nombre de lettres avec des collègues qui sont aux États-Unis ou ailleurs. Dans les annales de géographie, on recense les écrits qui sont publiés dans les autres langues. Bref, il y a une véritable communauté internationale. Et ce type de connexion, c'est quelque chose que l'on a essayé de travailler dans le passé comme dans le présent. Et c'est pour ça, et on nous l'a un peu reproché, on a une biblio très, très anglophone. Pas seulement, mais assez largement anglophone. Autre connexion, ce sont les connexions avec d'autres champs scientifiques. Alors, on a un peu, là aussi, naturalisé un couple célèbre qui est le couple histoire-géographie, qui date des tout débuts de la géographie scolaire, après la Révolution française, tout début du XIXe siècle en réalité. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu d'autres possibles, et parmi ces autres possibles, un rapprochement avec l'économie politique à la fin du XIXe siècle, qui était un rapprochement en partie stratégique, mais pas seulement, en partie stratégique parce que économie politique et géographie étaient deux champs un peu en déshérence, ou en tout cas qui n'étaient pas reconnus comme ils le seront plus tard. Et donc il y avait eu une tentative au sein de la Société de géographie de Paris, une tentative de rapprochement de ces deux champs de la connaissance. Et puis, début du XXe siècle, un troisième essai qui aurait pu dissocier le couple, un deuxième essai, pardon, qui aurait pu dissocier le couple histoire-géo, c'est le rapprochement avec les sciences naturelles, qui a été largement documenté, hein, dans le cadre de ce qu'on a appelé les conférences de 1905. Il y a eu cette tentative de rapprochement avec les sciences naturelles. Emmanuel de Martonne, qui est devenu le patron de la géographie française après Vidal, enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu quand même comme cela que ça s'est passé. Emmanuel de Martonne a plaidé pour ce rapprochement, ça n'a pas vraiment fonctionné, ou du moins ça a fonctionné un petit peu en décalé, avec la prise de pouvoir des géomorphologues et de la géomorphologie au sein de la géographie. Et puis, cette espèce de séparation, je parlais de schizophrénie tout à l'heure, hein, de coupure de la géographie en deux parties, qui est magnifiquement symbolisée et incarnée par les volumes de la géographie universelle qui sont consacrés à la France, la géographie universelle Vidal-Gallois. Je ne sais pas si vous connaissez ces volumes, mais on a trois volumes au sens physique du terme. Deux volumes qui sont géographie humaine de la France, un volume géographie physique de la France, donc il y a cette première séparation matérielle des objets, des dates de publication qui ne sont pas les mêmes, et des auteurs qui ne sont pas les mêmes, Albert de Mangeon pour le côté humain et Emmanuel de Martonne pour le côté physique. C'est-à-dire que même un objet spatial, bon, qui est le principal objet spatial de la géographie française, la France, mais un objet spatial va être matériellement, temporellement et en termes d'auteur divisé en deux. Et même chose lorsque l'Institut de géographie est créé à Paris. Alors je remonte un tout petit peu dans le temps, mais quand l'Institut de géographie est créé à Paris au début du XXe siècle, on trouve le moyen de faire deux bibliothèques de géographie. Une bibliothèque de géographie physique et une bibliothèque de géographie humaine. Donc ça veut dire que cette question du fonctionnement de la géographie et du fonctionnement des champs de la géographie, eh bien, elle, d'une certaine manière, on la porte comme un fardeau depuis longtemps. Encore aujourd'hui, hein, on a bien évidemment des héritages institutionnels de cela. La réforme des épreuves de l'agrégation, qui ont supprimé l'épreuve de géographie physique, qui faisait peur à tous les candidats, c'est pas si ancien que cela.